Bonjour et bienvenue dans cette 14e émission de Fish and Chips. Aujourd'hui, on programme, on parlera de cinéma et surtout l'interview d'une visseuse. Vous vous demandez de quoi on parle, c'est tout de suite dans Fish and Chips.
Let's start the party. Ce matin, j'imagine un dessin sans nuages, avec quelques couleurs comme vient mon pinceau.
Et bonsoir et bienvenue dans Fish and Chips, émission un peu particulière car Fish and Chips est en train d'évoluer, de changer. Après 13 émissions, la formule doit changer un petit peu. Geoffrey, peux-tu nous en parler davantage?
Et cache, t'es comme ça. En fait, on va changer un peu. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise?
Je sais pas, présente un peu la nouvelle formule, un peu comment ça se passe pour cette émission
okay,
et celles qui vont venir.
Cette émission, comme les Pokémon. On est Fish and Chips, l'évolution
de Fish and Chips.
Merci Mike. Dans cette émission, petite particularité, on n'aura pas d'invité. On va se partager les micros entre Tom, Mike, Flo et moi.
Bonsoir.
Bonsoir Flo.
Bonsoir
Mike.
Je suis enfin ravi d'avoir mon propre micro et ma propre chaise.
Je pense qu'on va couper son micro très très vite. Donc voilà, pas d'invité pour cette fois-ci. On va rediriger un peu les débats. On va revenir un petit peu à ce qu'on avait au départ. Donc une question un peu ciblée actu et une question un peu plus perso. Avec peut-être une petite interview étrange et rigolote, on l'espère en tout cas. Et toujours évidemment la chronique de Mike. Voilà.
Oui, toujours la fin. Mais je me demandais, ce serait peut-être pas mal de commencer pour présenter à tout le monde comment est né Fish and Chips.
Comment est né Fish and Chips?
Voilà, c'est une histoire que personne ne veut raconter, une personne ne veut savoir, je pense.
Parce
que ça mêle alcool avec modération et fatigue avec modération.
Et bifle.
Voilà, petite musique de fond.
Petite musique de fond.
Alors vraiment non. Donc l'histoire de Fish and Chips à la base, faut savoir que on avait envie, Geoffrey et moi, de faire un podcast sur Internet. Et ça, on a fait ça avec nos casques micro à la base, nos casques de gamer. Et ça n'a rien donné.
C'était moche. On avait fait une super émission par contre sur Arne Quinz et son magnifique Passenger. Que du coup big up parce que il va y avoir des nouvelles infos. Et puis voilà. Et du coup j'ai contacté Balou, un grand, un grand roux qui bosse à UFM aussi, qui est également DJ et qui fait sa musique sur son côté, et pour lui demander s'il pouvait me prêter des micros. Au final il m'a dit viens, on cherche des gens pour faire des émissions. Donc les gars, si vous nous écoutez, si vous avez envie de faire un petit peu de radio, n'hésitez pas du tout et venez nous voir, demandez à UFM si vous avez un petit concept d'émission, ça peut être bien sympa.
Mais voilà donc comment est né Fish and Chips. Et donc aujourd'hui autour de la table, nous avons comme d'habitude Mickaël Chantraine, notre barbu préféré mais néanmoins sensuel.
Merci.
Et aujourd'hui le photographe a enfin un micro. Du coup Florent, comment tu te sens avec un micro?
Alors là je suis tout excité.
C'est marrant, ta voix ressemble beaucoup à Superman, c'est marrant.
C'est pas la première fois qu'on me le dit, c'est bizarre.
Hey, t'as vu, il s'est bien habillé, il a mis une chemise sous un pull.
Ouais, alors je tiens à préciser que j'ai l'impression d'être habillé comme pour aller à la messe, sauf que je l'ai raté depuis midi.
Bah oui, t'as un peu raté la messe, mec. Et Fish and Chips, c'est un peu la messe de tout le monde, du mercredi à 17h. Tu vois.
Je leur mettrai quand même une photo pour qu'ils puissent voir.
Hashtag public.
Ouais, c'est ça, voilà. Hashtag, ça va être n'importe quoi.
Bien, les gars, on va pas recadrer le débat parce que ça fait 4 minutes et ça part déjà en couille grâce à Geoffrey.
Mais c'est ça qui est cool.
Et donc, aujourd'hui, on va parler un peu de cinéma parce qu'il faut savoir que dans Fish and Chips, on est 4 grands férus de cinéma, mais vraiment, on n'est pas genre les bêtes amateurs du dimanche. Non, on est des gros fans, on en parle tout le temps entre nous. Vraiment, c'est notre passion, c'est notre dada.
Ah ouais?
Et oui, je
t'assure. Moi, j'en compte 3. Toi, moi et Mickaël, il est où le quatrième?
Mais j'ai pas de cheval, je sais pas de quoi vous parlez, hein, les gars.
Et donc j'ai envie de faire un peu avec vous le tour du box-office de cette année, donc le box-office 2015, voir si vous avez vu les films oui ou non, et votre avis très rapidement dessus. Est-ce que cela vous semble être un bon début d'émission?
C'est quoi? Allez. On peut recadrer le débat, c'est quoi le box-office?
Alors le box-office...
Alors c'est pas quand arrive en France, mais c'est un peu un genre de classement.
D'accord.
Il demande de couper son micro. Je sais pas si c'est son micro.
Qu'est-ce
voilà.
Qu'il fait?
Il veut tousser.
Oui. Voilà. Donc,
le photographe
Flo a toussé.
En
c'est
toute
bon,
discrétion, c'est cadeau, c'est pour moi. Alors, on va commencer de suite. Donc, le box-office, les meilleures entrées. Et juste une petite question. Est-ce que vous savez quel est le film qui a rapporté le plus d'entrées cette année?
Cette année, Mad Max.
Mad Max.
Je crois que c'est Mad Max aussi, ouais.
Mad Max.
Avengers 2.
Vous êtes très très loin pourtant.
Ah non, c'est
ils sont tous sont dans le classement, mais oui.
Je sais, c'est Jurassic World.
Ah putain,
ouais, tu viens de dire le deuxième.
Ah merde. Oh, merde.
Et le premier, c'est les Mignons.
Ah oui, bah oui, évidemment.
Les Mignons qui ont fait
un
score
de...
Ouais, c'est bon, j'en ai marre. Non, Mike, reviens.
Il fait déjà son Buffy, là, le mec.
Ah non, mais enfin, on fait des émissions sérieuses, qu'on parle de cinéma sérieux.
Non, c'est les Mignons. Et on parle des Mignons.
Oh là là.
Bah justement, est-ce qu'il y en a autour de la table qui l'ont vu, les Mignons?
Non.
Je sais bien que Florent, toi, il me semble que tu l'as vu, toi, les Mignons.
On peut changer de place parce qu'il me fait peur, là. Oui, j'ai vu les Mignons.
Alors, t'en as pensé quoi, toi? Est-ce que ces Mignons d'entrée, c'est exagéré ou c'est vraiment un chouette film familial à voir et à conseiller à tout le monde?
Bah écoute, j'ai été le voir dans cette optique-là en me disant, bah ça va être super cool. Moi, ça me les délires qu'il y a avec les Mignons dans Moi, Moche et Méchant sont assez sympas. Donc je me suis dit, je suis parti sur cette optique-là pour aller le voir, quand j'ai été le voir. Et il s'est avéré que oui, c'est un film loin d'être bon. Mais si on y va en mode bon ok je veux juste me détendre et voilà ça va quoi, mais après c'est du gag à répétition, c'est souvent la même chose, c'est déjà ce qu'ils nous proposaient dans Mauvais et Méchant, donc je comprends que beaucoup de monde trouve ce film mauvais, même moi je le trouve pas super bon, je le trouve juste moyen en fait.
Ouais, ils ont juste fait la rentrée parce que tout le monde était fan des Mignons.
Voilà, c'est
dans
ça,
Mauvais et Méchant,
mais en fait
voilà.
Le problème c'est que c'est comme beaucoup de films ou de spin-off, c'est qu'ils prennent un élément d'un truc
fun
qui a marché en disant bah cet élément là fait rire énormément de gens dans le principe de base, du coup ça va faire rire les gens sur le long métrage.
Ouais, sauf que final,
un peu
ouais,
comme Joey dans Friends, tout le monde a joué dans Friends, pourtant sa série personnelle qui s'appelle je pense Joey il me semble,
ouais, c'est ça,
est un grand
ouais,
fiasco.
J'allais dire exactement la même chose, ou si tu retires Barney de Why Met et que tu fais une série
ouais,
sur Barney, ça va vite être chiant.
Voilà. Et donc les Mignons c'est le même principe. Quelqu'un d'autre l'a vu, toi Mickaël? Je ne pense pas du coup.
Je ne pense pas non.
Et toi Geoffrey?
Non, je ne pense pas non plus.
Ok, donc les Mignons pour vous, c'est Mignon d'entrée justifié ou pas?
Ou pas.
Ou pas.
Moi je pense que c'est justifié dans le sens où tous les parents ont emmené leurs enfants voir ce film quoi. Donc ça fait d'office deux fois plus de rentrée quoi.
Et pour toi, Mickaël?
Mais non, mais moi je pense que c'est commercialement c'est bien joué parce que les Mignons ont été exploités depuis un moment avant qu'il y ait le film pour
ouais,
que ce soit pour des pubs
et tout,
ou,
ouais.
Voilà. Donc les Mignons avaient déjà leur public, donc ils prenaient pas beaucoup de risques. De là à ce que ça soit le film le plus vu, bon, on sait très bien que c'est pas toujours les meilleurs films qui finissent en tête de ce
genre
de classement.
Et c'est qu'il est encore en salle, donc il va sûrement exploser ce record.
Attends,
hein.
attends, parce que dans 95 jours, plus ou moins, il y a un autre film qui va arriver, à mon avis.
Oui, mais Star Wars ne pourra pas détrôner les Mignons au box-office 2015, vu qu'il est
attends,
en fin d'année 2015.
Ouais,
en une semaine, il pourra pas faire les 6 millions d'entrées sur les Mignons.
Il va éclater tout, c'est Star Wars, mec. Je suis désolé.
Star Wars, il va faire ça en un week-end.
Bah oui, clairement.
Je pas si sûr et certain que ça.
Dans le top 10 2015, je veux bien croire, mais battre les Mignons, c'est quoi à dire, c'est une phrase très conne, mais que Star Wars batte les Mignons en termes d'entrée, je pense
non,
pas que ce soit possible en une semaine.
Pas en 2015, mais dans l'absolu, Star Wars va battre.
Soit de l'obéité, je veux bien croire.
Mignons, Star Wars a 2 semaines pour battre le box office 2015. En sachant qu'il sort en plus 2 jours à l'avance chez nous.
Mais le truc qui va peut-être faire peur aux gens, c'est que tout le monde va s'acheter sur Star Wars, donc il y a peut-être des gens qui vont attendre début 2016 pour aller peut-être la reprise de l'école ou après les examens.
Et donc les premiers films les Mignons qui ne fait donc pas l'unanimité autour de la table. Alors le deuxième film, tu en as parlé Flo, Jurassic World.
Attends, j'ai un truc à dire sur les Mignons.
Oui.
Parce que je sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a eu un truc marrant. Il y a un gars qui a lancé un buzz sur internet. Ça a fait le tour du monde en quelques heures. Tout le monde a partagé ça. C'était vraiment une idée de fou. C'est le mec, il a trouvé une photo où des enfants sont habillés un peu comme la tête des Mignons, donc ils ont un genre de scaphandre comme ça.
Oui.
Et le gars crée toute une légende autour en disant que les Mignons, c'est un terme allemand pour dire esclave ou quelque chose comme ça, et que c'était les enfants utilisés par les nazis. Et ça a foutu le bordel. Tout le web a tremblé.
Putain, c'est ouf.
Et après, il a dit bah non, c'est juste une blague. La photo, c'est juste des gens, des scaphandriers du début des années 1900. Et il a créé toute l'histoire autour. Mais
comme quoi,
il n'y aurait pas la crédibilité des gens à Godwin.
Oh, point Godwin, en moins de 10 minutes, un point Godwin, c'est quand même
c'est magnifique.
Pas mal.
Hein,
ouais, ah, on voit ça. Fallait le dire.
Alors, le deuxième film, donc Jurassic World, moi je l'avoue, je ne l'ai pas vu, contrairement aux Mignons que j'ai dû aller voir. Alors, Jurassic World, qui a donc fait le score, il a fait 1 million d'entrées en moins que les Mignons quand même, avec 5 millions.
5 millions.
Il faut le dire, il y a qu'une chose qui fait ça, c'est Chris Pratt. Quoi. C'est le mec qui a fait rentrer tout le monde dans le cinéma.
C'est l'acteur de 2015. Chris Pratt, je pense que c'est l'acteur de 2015.
Moi, je suis désolé. Je suis entré dans le film un peu à reculons et il y a juste une scène.
On l'a vu en même temps.
On a fait coucou. Et puis on s'est
envoyé des SMS.
C'était cool. Et en fait, il y a au tout début, première scène où tu vois Chris Pratt, il chope une mouche avec ses mains, avec sa main, tu vois. Et tu fais, ok, le film part en mode je suis un badass. Et à partir de là, tu lâches tout et tu t'éclates comme un ouf. Moi, j'ai juste adoré le film comme ça. C'est tout.
Moi, il y a deux.
En le prenant, rien à voir. Quoi.
Moi, il y a deux scènes qui m'ont juste pas mal plu. C'est la première, c'est tout au début du film quand on voit l'oiseau. C'est un corbeau, je crois qu'on voit mettre son empreinte de patte dans la neige.
Moi, je l'ai pas encore vu.
Avec un bon son, comme si c'était une patte de dinosaure. Ça fait. Et en fait, la caméra se dézoome, après on voit juste que c'est un corbeau, on se dit ok, ils nous ont trollé. Et la deuxième scène qui m'a marqué, parce qu'en fait c'est ce qu'on attend depuis le début en fait de Jurassic Park, c'est l'ouverture du parc, quoi. C'est le seul truc qui m'a fait des frissons en fait pendant le film, c'est voir la porte qui s'ouvre et se dire ça y est, le parc est enfin ouvert, quoi. Et après voilà, après ça s'essouffle très 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 vite, on se fait chier pendant 2h30.
Moi j'ai kiffé le mec qui court avec ses mojitos. Voilà, je suis désolé.
Et pour toi, Mickaël, toi qui me semble que t'es un fan de la franchise à la base, toi, non? Pas du tout.
Ouais, fan, c'est un grand mot, mais ouais, j'aime bien la première trilogie, moins le deuxième et même le 3. J'ai beaucoup aimé le troisième avec le Spinosaur. Mais Jurassic World, grosse déception, ouais. Ok, il y a un côté deuxième degré qui est bien assumé et qui passe bien à l'écran, comme tu dis, le mec en mode badass, voilà. Par contre, c'est Jurassic Park, 20 ans plus tard, et c'est le même scénario. C'est dommage d'avoir attendu 20 ans pour pas pouvoir écrire un autre scénario. Quoi.
Autre chose.
Ce qui me manque, c'est de l'originalité. Ouais. Et là, je vais pas faire de spoil. Mais ça se passe vers la fin, mais ça ne spoil rien. Et je vous jure que c'est vrai, à la fin, il y a un raptor qui chevauche un T-Rex. Je vous jure que c'est vrai, quoi. Déjà rien qu'en disant ça, on a compris vers quoi on allait. Donc, est-ce qu'on part dans le deuxième degré ou limite pastiche du film de ce style-là, en allant à fond les ballons et voilà, ou est-ce qu'on reste dans un scénario de film pour cette génération-ci et tout ça? Mais je trouve que le film se situe pas assez par rapport à ça.
Ouais,
il est parfois trop sérieux, parfois trop
pastiche.
Ouais. Mais donc pour vous, est-ce que 5 millions d'entrées, c'est justifié ou pas?
Moi j'ai liké, j'ai pouce bleu.
Mais ouais, c'est justifié dans le sens où ça fait combien de temps que les fans...
Oui, mais est-ce que pour toi, est-ce que le film vaut 5 millions d'entrées? C'est pas...
Non, largement que non.
Si on met de côté le contexte, le film pour toi ne vaut pas 5 millions d'entrées. Et pourtant, Mickaël?
Non, du tout.
Putain, les cyniques de la vie. Quoi.
Mais ça fait un peu, c'est vrai, blasé, mais.
Non, je comprends.
Moi, je me dis, quand tu vois, il y a un truc qui est intéressant dans le film. Il y a un truc qui est intéressant, sans aller trop loin, parce que j'avais une théorie complètement folle à un moment. On m'a dit, Mike, calme-toi, tu vas trop loin. Il y a un truc qui est intéressant, c'est quand on voit la cage du T-Rex. Alors que le T-Rex c'était le gros événement du tout premier. On attendait de voir le T-Rex, il est bien amené, on voit la chair, on la voit plus, puis on voit la patte qui tombe sur la voiture. Il pleut, c'est l'orage, enfin voilà.
Dans
c'est
le
impressionnant
premier, dans, ouais,
dans
premier,
le premier. Ici, on voit les gens devant la cage du T-Rex. Et tout le monde est sur son smartphone. Tout le monde s'en fout.
Mais justement, c'est ça que je trouve qui est génial.
C'est le seul passage où c'est bien expliqué ce truc-là.
C'est vrai.
Je trouvais ça un peu dommage. Et puis moi, tout le film, je me suis dit, mais les mecs, quoi. D'abord, je savais pas si c'était. J'avais pas trop lu pour pas trop m'attendre à trop. Beaucoup de fois trop dans cette phrase, mais c'est pas grave. Je ne savais pas si c'était soit une suite, soit un reboot, soit juste anniversaire. Je savais pas très bien où me situer par rapport à ça. Finalement, c'est la suite.
Ouais, c'est la suite et ils font du gros fan service aussi.
Il y a du fan service. Les blagues font un peu pif, quoi. C'était des blagues très drôles, peut-être il y a 20 ans, mais qui ont été utilisées dans un film sur deux depuis. Et le truc, c'est que tout le film, je me suis dit, mais merde, quoi. Ça a pas marché pendant 3 films où ils ont été sur les îles, où ils ont perdu le contrôle des. Où la vie trouve toujours son chemin. Et là, ils se disent, c'est pas grave, on va rajouter de l'argent et on ouvre
le
parc,
il n'y a pas de souci.
Donc
pour
ça,
vous,
quoi.
Le film est globalement.
Tu peux me tutoyer.
C'est pour l'ensemble.
Parce que moi je.
Toi, tu te tais déjà.
Ok, voilà. D'accord. Ça va, je me dis, ok.
Mais vous ne parlez pas tous. Alors pour vous, globalement, le film ne vaut pas 5 millions d'entrées, globalement, à part pour Geoffrey, mais globalement, le film ne les vaut pas.
Pour la franchise, oui, pour l'attente, oui, pour ce qu'il est réellement.
Voilà, c'est
non,
ça que je veux voilà. savoir, moi. C'est pour ce
mais
qu'il
en
est...
même temps, j'ai été le voir avec des amis et on était complètement séparés là-dessus. Il y en a qui ont beaucoup aimé et d'autres qui ont détesté comme moi. Donc,
Okay, du coup,
d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à Jurassic Park. Vous vous souvenez de cette fameuse scène où on voit le gobelet dans la voiture avec l'eau qui tremble à l'intérieur au moment où le T-Rex se ramène. Est-ce que vous savez comment l'onde qui est dans le gobelet a été faite, l'onde qu'il y a dans l'eau?
Bah avec un T-Rex.
Bah ouais. Justement, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé comment ils avaient fait. Ils avaient essayé. En fait, il y a eu plein de trucs qui ont été essayés, qui ont totalement foiré. Ils n'arrivaient pas à faire cette onde dans l'eau. Ils ont essayé de faire trembler la voiture, ça allait pas. Ils ont essayé de faire une secousse au sol, ça allait pas non plus. Ils ont essayé de bouger la voiture. Enfin, ils ont essayé plein de choses. Jusqu'à un moment, si je me rappelle bien, c'est le compositeur musique, je crois, si je dis pas de bêtises, était en train de répéter chez lui, en train de faire de la guitare, et il a remarqué, je crois, dans sa tasse de café, que quand il faisait la guitare à côté, en fait, il y avait une onde qui se répercutait dans sa tasse de café, et c'est comme ça qu'ils ont fait, en fait, cette fameuse onde qu'il y a dans le
gobelet. En jouant de la guitare dans la voiture.
Ils ont fait une note de guitare à côté du gobelet, mais et ça a fait.
Tiré avec ce guitariste.
Mais bah, c'est une bonne anecdote pour conclure sur Jurassic World. Du coup, le troisième film dont je pense qu'aucun de nous n'est fan de la franchise ici, mais le troisième film, selon vous, c'est quoi?
Mad Max?
Non.
Avengers?
Non.
On n'est pas fan de la franchise.
Pas du tout fan de la franchise.
Avalanche de Bridgeant.
Bullet.
Hunger Games.
Non.
Divergente.
Non.
La 2.
Labyrinthe.
Non.
Putain.
Non. Oh, Labyrinthe, moi j'aime encore ça.
Labyrinthe, oui.
Le 2 va sortir la semaine prochaine.
Fast and Furious 7.
Ah oui.
Oh mon dieu, quoi.
Ah ouais, mais
t'es ouf.
Voilà.
Je suis grand fan.
C'est vraiment fan, toi, t'as bien?
Mais non.
Parce que là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi les gens aimaient cette série.
Parce que l'acteur est mort.
Parce que.
Ça a dû jouer. Paul Walker qui meurt, ça a dû jouer dans les entrées. Mais
tu sais que je l'ai regardé, sans vouloir vous couper, je l'ai regardé récemment.
T'as tout coupé là.
Bah, okay,
tout le monde allait parler.
Je vais faire ma gueule, ça va.
Okay. Vas-y.
Non, mais vas-y,
je l'ai regardé récemment et c'est clairement du Fast and Furious, hein, y a rien. C'est juste, ok, tout le monde dit ouais, la dernière demi-heure c'est hyper méta, machin. Ils disent que la vie c'est les amis c'est la vie, enfin un truc comme ça. Les amis c'est la famille. Et en fait c'est les 5 dernières minutes où. Bah, je vais pas spoiler, mais c'est mignon, c'est vrai, j'ai peut-être versé une
micro-larme.
Ouais,
mais je pense qu'ils ont réécrit ça.
Mais, clairement, et c'est son frère qui a tourné. Mais moi, j'imagine, tu sais, le frère en train de pleurer avec ses billets. Tu sais, le même là, où il pleure et il s'essuie avec ses billets.
Ouais. Fast and Furious, je suis pas fan du tout, quoi, c'est vraiment le cinéma que je fouille. Mais l'un dans l'autre, ils ont quand même réussi à avoir une belle licence. C'est toujours des gros budgets, il y a des beaux effets spéciaux, ça faut leur laisser quoi, c'est techniquement c'est bien réglé et surtout ils en sont 7 films et il y a encore les acteurs du premier quoi.
Ouais.
C'est pas une série qui s'est essoufflée.
Ah bah non.
Bah oui, il est décédé
mais ouais, t'as Vin Diesel a pas joué dans le 2 je pense ou dans le 3, enfin
dans
le moment
3,
il est pas
dans le
4.
C'est
ils ont réussi. Enfin ils ont réussi la licence commençait à partir vers le milieu du DVD et plus du tout du cinéma. Ils ont réussi à la remonter, à faire revenir les acteurs. Donc ouais, ça reste pour ceux
après, ils ont
qui
créé
aiment ce genre de cinéma, c'est du bon cinéma de genre. Quoi.
Après ils ont créé tout un univers derrière. Ils ont il y a une suite logique dans les films et dans la manière de les regarder. Moi je kiffe mais juste pour voir des bagnoles. Pour kiffer mon moment où je réfléchis pas du tout de la soirée, enfin voilà, tu sais, les soirées en mode il se passe rien, je réfléchis pas et je mets ça quoi. Mais il y a un univers, il lit les films entre eux, là avec celui-ci, enfin tu sais, c'est genre le frère du méchant, et puis voilà, il a buté le mec à la fin de Tokyo Drift, et du coup, on le voit dans la scène là, enfin voilà. C'est,
spoiler.
Il y a un petit. Non, c'est dans. Tokyo Drift, c'est il y a 10 ans, donc ça va, je crois. Donc. Mais voilà, il y a quand même un univers écrit derrière qu'ils ont créé. Bon, ils l'ont créé en 7 films. Je veux dire, voilà, genre Jules Kahn, on a fait un en un film. Mais
le problème, c'est que ce sera pas le dernier et ils vont exploiter. Tant que ça marche, ils vont continuer à exploiter. J'ai bien aimé, en fait, j'ai regardé jusqu'à Tokyo Drift, je crois. Et oui, c'est ça, j'ai regardé jusqu'à celui-là et j'ai arrêté après parce que c'était du redondant et toujours la même chose. Et en fait, ils font que exploiter. un filon, quoi. C'est comme si les mecs ils avaient du charbon et ils se disent ouais, on a une nouvelle ressource, on continue donc, jusqu'au moment où c'est plus possible. Mais le problème, c'est que les gens continuent à aller voir ça. Donc, on a l'impression qu'on va à l'époque du nucléaire, ben on continue avec le charbon.
Donc, pour conclure un petit peu sur le Fast and Furious, pour voir un peu les autres films, pour un peu avancer vite fait, on peut dire Fast and Furious c'est un film que nous on n'est pas fan, mais on comprend pourquoi ça fait autant d'entrées, parce qu'ils ont un filon et ce serait con de leur part de ne pas exploiter, quoi.
Mais voilà, mais l'histoire du filon, je suis désolé, c'est comme les Minions, c'est comme Jurassic World aussi. Enfin, pourquoi faire une suite à Jurassic Park en trois films, ils avaient tout dit aussi, tu vois.
Ah, mais ça, c'est l'argent.
Ah, mais c'est la vraie question.
Mais voilà, ouais. Donc voilà, donc Fast and Furious, je suis désolé, ils font comme les autres. Enfin,
ouais, mais je veux dire,
il est pas plus con que les autres, je veux dire, il a un truc qui marche. Ouais.
Pour clôturer sur Fast and Furious, comme je disais, c'est pas ma cam, mais ça reste de la qualité dans ce domaine-là.
Oui,
quand on regarde la série du Transporteur, c'est de pire en pire, et maintenant ils vont essayer de faire un
jeu. Il y en a un qui est sorti, c'est un reboot, là, je crois, celui qui est sorti récemment.
Ça a l'air hyper cliché, enfin, j'ai pas vu.
Transporteur, quoi. Enfin, voiture, femme.
Ouais, mais il y a plus Jason Statham, donc déjà ça perd son charme.
Ouais, il est passé à Fast and Furious 7.
En tout cas, maintenant, on va passer donc au quatrième film, film que vous avez souvent cité, donc, selon vous, c'est...
Mad Max.
Non.
Avengers.
Non, Mad Max, on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'il a été le 14e film au box-office français.
Ah putain, c'est moche.
Là, on se base donc sur le box-office français.
T'es 6 millions, c'est 6 millions de, pour les Minions, c'est français.
C'est français.
Ok.
Mais les chiffres doivent être sensiblement similaires en Belgique. Hein, on va pas vous voiler la face.
Non, mais au niveau mondial, c'est plus intéressant.
Oui, mais ça, j'ai pas eu les informations.
Il a un micro, le mec, il se la pète.
Là, je parle du box-office français.
Ok, d'accord. Là, je comprends mieux.
Donc, c'est Avengers. C'est donc Avengers.
L'ère d'Ultron.
On en a, je pense, déjà beaucoup parlé dans Fish and Chips, donc je sais bien que moi j'ai toujours pas vu les Avengers, c'est ma mea culpa, mais je sais bien que pour vous ça les vaut, quoi. Les 4,5 millions d'entrées, ça les vaut.
Non,
non,
il est pas bien le 2.
Il est pas bien le 2, c'est bien.
Mais je vais vraiment passer pour le mec qui aime rien, quoi.
Non, mais je suis
non, mais attends, j'ai pas donné une bonne critique depuis le début, hein, mais voilà.
Donc c'est le 1 que vous aimez tous, et parce que moi, faut savoir, Marvel, je ne connais que très très peu Marvel. Moi, je suis DC boy dans le sens où je ne garde que des DC. Par hasard, c'est vraiment du pur hasard que je ne regarde que des DC. Du coup, je n'ai pas vu les Avengers, donc je n'ai pas d'habitude. En fait.
Mais voilà, après, les Avengers 2. Le gros problème qu'ils ont eu, c'est que les mecs se sont, encore une fois, c'est encore des mecs qui se sont basés sur quelque chose qui a marché. Donc, en gros, dans Avengers 2, à part quelques scènes, le reste, c'est de la similitude au premier, quoi. Il y a même une vanne qui revient, qui est la même que dans le 1,
oui.
Et elle est placée quasiment au même moment du film. Et tu te dis, mais les gars, ok, vous avez trouvé une vanne, vous arrivez à la mettre deux fois dans vos films. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que tout le film, c'est comme ça. Tout est remis comme dans le premier, et tu dis, mais attendez, à quoi ça sert? Nous, on vient quand même pour voir un minimum de scénario. Là, vous nous offrez rien, quoi, à part Avengers 1 avec un nouveau méchant, quoi.
Moi, c'est pas avec Avengers que j'ai un problème, c'est avec le Marvel Cinematic Universe, qui est énormément trop étendu, qui est prévu
parlé,
sur
ouais.
un...
Ouais, on en parlait il y a quelques émissions.
Entre les séries, les machins, les trucs, les bidules, qui est prévu sur des années et des années et des années. Enfin, je suis désolé. Attends, ils te teasent Thanos et son gant de l'infini depuis Captain America, quoi. Depuis le premier Captain America avec le Tesseract.
D'ailleurs, je sais pas comment ils vont faire avec les pierres de l'infinité, parce qu'il y en a déjà une qui est dans le marteau dans Gardien de la Galaxie.
Ben, ils l'ont pété, ils l'ont refilé au... Mais on est en train de spoiler. Là, c'est émission spoil, hein.
Je sais pas.
C'est pas grave, on s'en fout.
Ce qu'ils ont fait. Ah oui, non, c'est
ils l'ont refilé au Nova Corps.
Au policier, ouais, c'est vrai. Il y a l'autre qui est dans le crâne de... Je sais plus son nom. Avengers 2. Le genre Ultron, mais...
Oui, Vision va se faire éclater.
Enfin, d'accord, merci.
Mais j'en sais rien, mais c'est la seule solution. Mais voilà.
Ah ouais, parce qu'il va falloir.
Il va arriver, et le film s'appelle pour 2018, 2019, 2000, je sais pas combien, Thanos, les gants de l'infini ou la guerre de l'infini.
C'est Infinitoire. Ouais.
Infinitoire, voilà, la guerre de l'infini. Mais qui c'est qui va arriver en grand méchant? Bah, Thanos, avec son gant, enfin, c'est obligé.
Mais en même temps, c'est comme ça dans les comics, et il respecte. Enfin, la seule chose qui est bien, c'est qu'il
respecte
de plus en plus. En fait, plus on avance, plus il respecte ça.
La chronologie et l'univers.
Un point qui est très important, aussi bien dans Marvel que dans DC. Il commence à respecter de plus en plus les fans et les comics en mettant les événements tels qu'ils se déroulent.
Mais tu veux voir un film, tu dois taper toute la filmographie avant. Voilà. C'est chiant. Et les séries. Voilà.
Bien, donc Avengers, je vous rends aussi à l'émission numéro 10 sur Superman et Batman, dans lequel on a largement parlé des Avengers, de DC, tout ça.
Dans plusieurs émissions.
Et donc le cinquième film qui, je pense, fera davantage l'unanimité autour de cette table, du moins je l'espère, parce que
La vie cachée de Jean-Michel Jarre?
Non, Mais... Allez, devine un petit peu un film qui aurait pu tous nous plaire. Je pense qu'à Florent et moi, il nous a plu.
C'est Marc Dorcel.
C'est pas Marc Dorcel.
Vice versa.
Vice versa, ouais.
Que je n'ai pas vu.
Ah, j'ai pas compris.
Très bon Disney. Merci Disney de nous faire encore rêver.
Oh, merci Pixar surtout.
Mais non, vice-versa pour moi dans le top 5 du box-office, parce que après c'est marrant, mais après le top 5, les films commencent à devenir, c'est des films que je commence vraiment à apprécier, mais dans le top 5, c'est le seul film dans lequel je me dis, ah celui-là il est vraiment créatif, original, il me plaît vraiment, et vice-versa, c'était un très bon film d'animation, quoi.
Oui, mais il n'y a rien à dire, scénario, réalisation, les images sont nickel, il n'y a pas de défaut, enfin, ce film, c'est un Disney vraiment très réussi, à la même au même niveau que le dernier film qui était sorti, Big Hero 6.
Ah, justement, il est 8e.
Très bon aussi, et c'est très rare que je dise ça, mais merci Disney de nous sortir deux bons films en même temps dans l'année, quoi.
Non, mais c'est vrai que Vice Versa, c'était un film. Bon, moi, quand tu dis qu'il n'y a pas de défaut, il y a des défauts scénaristiquement parlant, il y en a. Il y a des facilités, qu'on va dire, d'écriture de scénario, que je vais peut-être pas m'étendre ici maintenant, mais qui sont juste là pour un peu émouvoir le public. Des facilités, il y en a.
Mais après, dans
l'ensemble du film, c'est un film qui se mate en famille. C'est pas un film que seuls les petits vont aller voir, non. C'est comme je le compare un peu au Petit Prince. C'est pas le film, le bouquin, je parle. Hein. Je le compare au Petit Prince dans le sens que, à l'âge.
Le film, le Petit Prince.
Oui, qui est sorti récemment. Mais donc, je comprends le Petit Prince dans le sens que, avec l'âge que tu auras, le film prendra une autre vision.
Comme
oui,
The Lego Movie.
Ouais, mais
The Lego Movie.
C'est un peu la marque de fabrique de Pixar, ça. Ouais. Il y a toujours deux lectures. Deux t'as lectures, la lecture enfant de l'enfant et la lecture de l'adulte qui regarde le film, et toi aussi, tu redécouvres le film avec le temps.
Mmh. Et donc, voilà, pour moi, Vice Versa, un très bon film. Et donc, en vrac, on va dire un peu les autres films qui est en vrac, mais sans trop en parler. En numéro 6, il y a 50 nuances degrés, mais ça, on s'en fout. Les Profs 2. Qui est un peu meilleur que le premier et qui doit beaucoup à Eric Lampard, qui est le mec qui jouait Mon Incroyable Fiancé.
Le joueur de foot.
Ouais, voilà, celui-là, le même. Non, mais Eric Lampard qui arrive à tirer son épingle du jeu entre Kev Adams, tout ça, c'est. Bref, il a très bien joué son coup, je trouve, cet acteur-là. American Sniper, qui est relativement bon.
Je l'ai vu.
Papa ou Maman, que je n'ai pas été voir parce que je n'ai pas osé aller le voir. Je ne sais pas si vous avez vu ou pas.
Non,
avec Marina Foïs, c'est des parents qui veulent se disputer, qui veulent pas leurs enfants, du coup, ils se disputent la non-garde. Il y a Tekken 3, quand on parle de franchise qui tire sur la ficelle.
Je n'ai pas vu
Luc Besson. Voilà. Ah oui, et, là, ouais, et c'est la fille qui doit retrouver le papa, je crois.
Il y a Mission Impossible Rogue Nation.
Ah oui, mais encore une franchise.
J'ai envie de le voir. Mais moi, j'aime bien la franchise Mission Impossible. Ouais.
Il paraît qu'il est très bon.
Bah, moi, l'émission Impossible, c'est comme pour toi, les Fast and Furious. Tu vois, j'appelle ça du film popcorn.
Ouais, c'est ça.
Tu
peux
mettre devant la télé, t'as du spectacle et voilà.
Ouais, mais pour une fois, il paraît que le dernier Mission Impossible est bon. Moi, j'ai pas encore été le voir, mais il paraît
Il met Simon Pegg dans un film, déjà. Simon Pegg, voilà. C'est un gage de qualité dans un film, déjà.
Déjà. Et puis, je pense que c'est réalisé par Brad Bird, si je me trompe pas. C'est le mec qui a fait les.
Mission Impossible, sinon, c'est réalisé par Christophe McQuarrie.
Voilà, j'ai confondu.
Et donc aussi pour terminer donc le top 15, en 12e place, il y a Divergente 2.
Oui, ouais.
Il y a le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père, j'ai tenu 15-20 minutes devant le film avant de décrocher.
Ah, le film avec Louis de Funès, on sait que c'est Louis de Funès et tout.
Voilà, celui-là même. Celui-là même qui était une catastrophe monumentale. 14e place, Mad Max. Et pour terminer le top 15, Cendrillon.
Ouais, mon Dieu. Sinon, pour rajouter vite fait, là je conseille aux gens d'aller voir Le Petit Prince, qui est une merveille. Ils ont juste, mais alors super bien adapté le livre au cinéma. Je trouve que c'était la manière dont il fallait le faire. Et merci. J'ai passé un moment magique en regardant ce film. J'ai même pleuré à la fin. Et j'avais un autre film, mais je l'ai oublié.
J'en ai un petit que j'ai vu hier soir. C'est Le Tout Nouveau Testament.
J'ai
exactement ce que j'allais dire.
J'ai eu très très peur parce que je me suis dit, ok, Poulvord et François Damien et Yolande Moreau et tout ça, je me suis dit, ils vont prendre l'écran à main. Putain, un poil de barbe de 6 cm. Ils vont prendre l'écran, tu vois, ils vont prendre l'acting et tout, et on va voir aucun des acteurs.
Au final,
ils ont des seconds rôles et c'est la jeune actrice qui tient tout. Je sais plus le nom. Mais franchement, génial. Et évidemment, Poulvord toujours aussi bien. Mais la petite jeune en fille de Jésus, super, en fille de Dieu, génial.
Jaco van der Maal, quoi. Mister Nobody,
c'est génial.
Bien, donc maintenant, nous allons passer à l'autre partie de l'émission. Alors aujourd'hui, on a réussi à voir en exclusivité, mais mondiale, mais c'est quelque chose de fou furieux, c'est Geoffrey Dan qui a réussi à nous décoter cette interview formidable. Nous avons réussi à choper l'interview de la visseuse d'un de 15, c'est tout de suite dans Fish and Chips. Alors bonjour, dans cette première interview, on accueille la visseuse favorite d'Arne 15, que j'ai nommée Chantal.
Restons professionnels, appelez-moi Madame Visseuse.
Ok, pas de soucis, excusez-moi. Sur ce, pouvons-nous en savoir un peu plus sur vous? À combien de tours minutes tournez-vous par exemple?
Écoutez, je suis le haut de gamme des visseuses, je monte au moins jusqu'à 7200 tours minutes.
Prétentieux, je vois très très bien. Vous allez donc retravailler sur le Passenger. Voulez-vous nous en dire un peu plus du 1er décembre dernier?
Oui, alors évidemment, je me suis occupé de la réalisation du Passenger d'Arne Quinz. J'ai vissé environ 6 millions de vis à moi toute seule, malgré les mains moites des ouvriers et du travail de nuit.
Et justement, pour manipuler un outil tel que vous, ne faut-il pas prendre quelques précautions?
Oui, vous savez, le port du gant, c'est obligatoire sur le chantier, hein. Mais un ouvrier, ça transpire. Et ça transpire encore plus avec des gants, ok? Alors du coup, oui, moi ça m'use, voilà. Sans compter qu'on est obligé de se taper des heures de fou. En plus, avec la concurrence déloyale et le matériel asiatique, hein, qui fournit du travail, excusez-moi mon langage, mais médiocre.
Ah justement, en parlant du travail mal fait, la chute de la structure. L'enquête n'avance pas de notre côté, une enquête Fish and Chips. Mais avez-vous un avis dessus?
Je viens de vous le dire. Enfin, moi je peux vous le dire, hein, j'en ai connu des visseuses. La plupart, c'est acceptable. Celle-là, elle papote, et voilà que ça pète les têtes de vis. Ça tient pas 10 minutes avec un cruciforme. Si la vis est trop petite, ça veut même plus travailler. Je vais vous le dire. Moi, je fais ce que je peux, hein. Mais à un moment, avoir une tête de vis toute usée, sur laquelle on peut même pas mettre sa tête cruciforme, il faut dire stop.
Mais, et si vous en aviez marre de vos collègues? Vous sauriez retrouver du travail facilement? Il y a de l'emploi chez les visseuses? Question qu'on se pose tous.
Oui, vous savez, je suis une visseuse d'exception, hein, de qualité. Je ne fais que du travail culturel, du travail intellectuel. The Passenger, c'était un petit peu une consécration pour moi. Faut quand même savoir que je ne suis pas belge d'origine, hein, je me suis expatrié. Vous savez, l'Allemagne et le travail manuel, on a un lourd passé.
Deuxième point de Godwin, Madame Visseuse, calmez-vous un petit peu s'il vous plaît.
Je m'excuse. Je me suis intégré tout de suite par contre, parce qu'en Belgique, quand tu fais ton travail, on ne pose pas de questions.
Oui, mais plus concrètement, vous sauriez retrouver quelque chose, vous pensez?
Oui, enfin, si on cherche de l'emploi à tout prix, il y aura toujours du travail dans les rues de Mons, hein. Il y a toujours un chantier ou deux en cours.
Mais je vois que notre chroniqueur Michael Chantrain a envie de vous poser une question, il n'ose pas. La question c'est, mais quel serait votre métier de rêve?
Ponceuse électrique. Enfin, quand tu ponces, c'est plat, c'est droit. Avec une ponteuse, tu fais du travail, quoi, du travail de finition. Je ferais des magnifiques choses au lieu de les construire, je les sublimerais. D'ailleurs, faut que je discute avec Arne, car après la reconstruction du Passenger, je vais sûrement faire un burn-out. Je sens déjà que je surchauffe.
Eh bien écoutez, Madame la Visseuse, donc, que j'ai nommée Chantal, mais apparemment votre petit nom, c'est quoi encore, vous m'avez dit?
Visseuse, je n'aime
Madame
pas
Madame Visseuse, donc Madame Visseuse, merci de cette interview exclusive pour Fish and Chips. Et restez avec nous, de suite passer la première musique de Fish and Chips. Oui, Michael Chantal,
j'avais une question pour Madame Visseuse. Je me demandais, est-ce que visser s'est trompé?
Visser s'est trompé si on utilise une tête plate.
D'accord.
Voilà, et merci Madame Visseuse pour répondre à cette question. Ah même, Florent, sur une question, oui?
Non, je voulais juste dire qu'elle ponce pas beaucoup.
Voilà, donc c'est la première et la dernière émission de Florent Vasseur. Alors on va de suite passer à une musique que j'aime beaucoup mais qui n'est pas dans le délire habituel de Fish and Chips. On va passer Take Me to Church de Ozier. Allez, parti. C'est parti. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen, amen, amen. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life.
UFM.
Alors, on est de retour dans Fish and Chips. Madame Visseuse est partie et on attaque de suite la deuxième partie de l'émission. Je vous le rappelle, la deuxième partie, c'est apprendre un peu le passé de nos chroniqueurs, le passé de ce qu'ils aiment, toute leur vie en somme. Et aujourd'hui, le débat portera sur le pire film.
Couche.
Non. Je te mute. Alors, le débat portera aujourd'hui sur quel a été votre pire souvenir au cinéma. Pour quel film vous avez payé une place en vous disant « Je n'aurais jamais dû payer cette place ». Alors, c'est parti. Je pense que Florent Vasseur a déjà son idée toute bien précise
oui.
en tête.
Oui, mais c'est très récent. J'en ai d'autres, hein, sûrement. Mais là, j'ai la plus récente en tête, c'est « Les Quatre Fantastiques
oui. ».
Un fantastique film à aller voir en famille. Surtout, n'oubliez pas de payer votre place en rentrant au cinéma pour sortir ouais. de là. Et vous avez
pour la défense envie. Du film, apparemment, le réalisateur s'est barré en pleine réalisation. Parce qu'il ne voulait pas dire oui au studio. Et du coup, le film a été fait plus ou moins par le studio. Et par un yes man, et donc la plupart du film c'est de la merde.
Non, alors déjà, enfin,
d'après ce que j'ai vu, je suis
alors,
pas allé.
Et on va remettre les choses dans leur ordre. Il faudrait déjà que la Fox lâche ses putains oui. de films Marvel pour les rendre à Marvel.
Ça, j'ai pris.
Parce que là, c'est juste plus possible. Déjà, les premiers 4 Fantastiques étaient une catastrophe.
Bah, si tu compares au dernier, ça
et
va.
Les mecs, non, parce que si on compare au dernier, c'est le même gabarit, quoi. C'est un film, mais totalement raté de A à Z. Déjà, en fait, oui, je pense que même si on le prend dans le sens qui doit être pris, c'est-à-dire que le film a été fait exclusivement pour avoir une suite. Donc il faut s'attendre à ce que ce soit lent. Mais même à ce point-là, quoi, je me suis dit, mais c'est pas possible pendant, je vous jure, si je sais pas exactement combien de temps dure le film, mais on va dire 2 heures. Si le film dure 2 heures, il y a 1h30, voire 1h35 de mise en place. Tu te dis, dans un film de super-héros, 1h35 de mise en place, c'est pas possible. Je veux dire, Spider-Man, il se fait mort par l'araignée au bout de 10 minutes de film. Iron Man, il a fait son costume au bout d'une demi-heure de film maximum. Hulk, il a été il a eu ses radiations au bout de 10 minutes aussi, quoi. Il faut pas attendre l'heure et demie de film pour que la torche se rende compte qu'elle peut voler avec son pouvoir.
Oui, ben Smallville, donc, Superman, il a mis 10 saisons à mettre son costume.
La Gotham, mais voilà,
c'est un truc. Moi, je me suis dit, mais c'est juste incroyable, ouais. quoi, les gars. Vraiment, vous avez de l'action. Parce que là, au bout d'une heure, et demie de film, on a même pas encore d'action. Il y a juste eu un petit combat entre deux personnages principaux pour dire, je suis pas content d'être tout moche et d'avoir eu ces super pouvoirs. Moi, j'ai rien demandé. J'étais ok, d'accord.
Ben Grimm.
Et les gars, à la fin, c'est vraiment sur les 10 dernières minutes de film. Qu'il y a de l'action, donc que les 4 fantastiques combattent, comment il s'appelle encore,
c'est Victor Van Doom.
C'est
lui qui combat.
Oui, oui, mais
c'est
oui, Fatalis. Ouais, fatalité, ouais.
Quoi?
Fatalité. ça m'a fait rire, quoi. Enfin, que soit. Dans les 10 dernières minutes de film, ils le combattent, et alors, le truc que vous voyez venir, mais alors 10 000 ans à l'avance, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la chose fait, moi je suis le plus fort, il court dessus, il se fait exploser la gueule, la femme invisible, elle fait un dôme de protection, elle se fait exploser la gueule, la torche, ouais, je suis super rapide, il se fait exploser la gueule, et puis là, Monsieur Fantastique, mais les gars, si on combat ensemble, on pourra le vaincre. Et effectivement, ils le battent, et puis après, oui, non, mais je m'en fous complètement, je préfère spoiler les gens et qu'ils aillent pas voir ce film, ils le battent, hein, c'est les 10 dernières minutes de film, là, on les récompense, ouais, félicitations, on va vous offrir votre laboratoire, vous allez pouvoir expérimenter vos choses dans un truc au fin fond de l'Amérique, dans des montagnes. Ils arrivent en face du labo, et là, je vous jure, ils ont osé le faire. C'est là que ça m'a fait gerber. Hein. C'est le moment où, il faudrait quand même qu'on se trouve un nom d'équipe, les gars. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire, la torche et ses torchettes, Madame Invisible et ses compagnons. Et puis, là, il y a un petit blabla qui se fait, et la chose se retourne vers son meilleur pote, qui est Monsieur Fantastique, et dit, c'est quand même dingue tout le chemin qu'on a fait jusqu'ici, hein. C'est fantastique. Et là, Monsieur Fantastique se retourne et dit, qu'est-ce que tu viens de dire, là? Et puis là, les 4 Fantastiques écrits en grand qui apparaît, générique. Non, mais vous avez quand même pas osé, quoi. J'ai l'impression d'avoir payé 9 euros pour arriver à ça. Et je dis, mais non, c'est une vaste blague. Dépenser 9 euros pour ça, c'est. Enfin, bon, ça sent. Hein. Je suis encore à chaud, ouais. Ça fait 3 semaines que je l'ai vu, mais ça m'a gonflé. Ouais.
Donc, les 4 fantastiques pour Florent. Et pour toi, Michael.
Il y en a eu, hein. Il y en a eu. Déjà, je pense qu'on peut prendre le top 5, là. je me suis endormi une fois au cinéma et j'ai ronflé, et on me le remet souvent sur le nez. C'était pour Stardust, mmh. Un film avec Michel Pfeiffer, mmh. Où pour moi le seul interdit du film c'est Robert De Niro en capitaine de bateau pirate qui porte des robes. Ça c'est une fois, exceptionnel.
Adaptation ratée de film de roman.
Mais Robert De Niro est magnifique, mais vraiment dans le film c'est il sauve le film de ce qui peut être sauvé, mais je sais pas, je suis pas du tout rentré dans l'histoire. Si pas, pour moi, le pire film que j'ai vu de ma vie, c'est Promenons-nous dans les bois, avec Clotilde Courau, c'est un film français. Désolé, Florent. Geoffrey. Non, Promenons-nous dans les bois, c'est quand même... C'est, voilà. Parce que c'est pas fait exprès, parce que les films qui sont pourris, mais tu t'en doutais avant de les voir, ils ont quand même leur charme. Tu vois, c'est comme l'enfant, c'est souvent le moins beau de la famille qu'on aime le plus. Mmh. On n'a pas fait exprès qu'il soit comme ça, mais bon, on l'aime bien quand même. Mais non, là, Promenons-nous dans les bois, c'est une catastrophe.
Ok. Et pour toi, Geoffrey ?
Moi, le truc, c'est que je vais au ciné pour voir des blockbusters. Je télécharge. Il y a des films que je télécharge et je me dis, putain, j'aurais dû le voir au ciné pour faire plaisir, tu vois. Non, totalement légal. C'est quoi, Microtorrent, c'est légal, non ? Mais non, je crois que celui qui m'a le plus déçu au ciné, ça doit être Le Village. Je crois.
Le Village.
Sûr. Mais c'est parce que moi je m'attendais à voir un film fantastique, tu vois. Mm. Et en fait, c'est un film d'horreur. Déjà, de base, j'aime pas les films d'horreur.
C'est pas un film d'horreur, vraiment.
Attends, j'ai attendu d'avoir 21 ans avant de regarder Mars Attacks, s'il te plaît.
Okay. Okay.
Donc voilà, on resitue un peu les choses. J'ai toujours pas regardé Alien 2. Ok. Donc,
ah ouais.
Voilà. Ah, il est bien flippant celui-là.
Ouais. Le 1, je l'ai regardé 2 jours, les rideaux ouverts et tout. Enfin, vraiment en mode derrière mon canapé, hein, quand même. Mais ouais, non, Le Village. Et puis pour au final un twist de merde à la fin qu'on sent venir à des kilomètres à la ronde.
Mais voilà. Pour moi c'est le film, c'est pas son meilleur, mais c'est un des bons films de Joaquin Phoenix. Moi Le Village, j'aime pas la réal forcément de Night Shyamalan,
j'aime beaucoup.
Mais on va dire que Le Village est peut-être, comme le disent beaucoup de gens, un de ses derniers bons films. Mais je trouve que Joaquin Phoenix c'est juste prodigieux dans ce film-là. J'aime beaucoup ce comédien-là.
Mais le truc c'est pas que je trouve que c'est un film de merde. C'est un film qui me correspond pas du tout. Et voilà, comme disait Mike avec Fast and Furious, c'est pas ma came. Mais il y en a qui doivent kiffer. Mais moi, ça m'a fait chier d'avoir payé, je sais plus combien à l'époque, pour aller voir ça, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est tout pour le moment.
Et toi, Tom ?
Ben moi, j'hésiterais entre deux films. Il y en a un qui me vient vraiment en grand dans la face, mais avec du recul, j'hésite entre deux films. Un que je vais dire très rapidement, c'est Alex Rider. C'est le film Alex Rider qui est sorti donc en 2005, 2006, quelque chose d'utile. Non, j'avais pas 12 ans. Non, c'est plutôt 2007, on va dire. 2007, où moi je suis un grand fan d'Ewan McGregor. Et toute la promo du film, la bande-annonce, tout ça, est faite autour de McGregor quasiment. McGregor, tu le vois sur la moitié de la bande-annonce. Et quand tu arrives au film, je crois que le deuxième nom que tu vois dans l'écran quand t'arrives au cinéma, le deuxième nom c'est Ewan McGregor. Moi je suis un grand fan de McGregor, je fais wouhou, je suis super content. Et en fait McGregor il meurt au bout de 3 minutes de film, c'est pas un spoiler, c'est il meurt au bout de 3 minutes de film et après on voit 2 photos de lui.
C'est comme Steven Seagal dans Ultime Décision.
Pas lui celui-là, moi.
Il est en tête d'affiche aussi. Et...
Mais c'est un peu l'effet Maria Callas en fait. Maria Callas à son époque, qui elle aussi a fait quelques gros films. Et qui après, dans tous les petits films qu'elle a fait, enfin, à chaque fois qu'elle avait un petit rôle dans un film, elle était en tête d'affiche. Mais elle la voyait comme dans la plus longue nuit de l'exorcisme. Elle a le rôle à la fin de la demeurée, mais on la voit durant 5 minutes. Et c'est le deuxième nom sur l'affiche, quoi. Et donc, moi, j'étais très déçu par ce film-là, juste pour ça. Et en plus, non, parce que le film est carrément mauvais aussi. Mickey Rourke était abominable dans ce film-là. Et aussi, moi, le deuxième film qui l'a plus peut-être porté à débat autour de la table, c'est Steak de Quentin Dupieux. Alors, avant de donner vos avis pourquoi, moi, ce film-là, je l'ai détesté, je l'ai abhorré. J'étais le voir au cinéma dans une salle remplie à Luce et Bren. Au bout d'une heure de film, la salle était à moitié remplie. À la fin du film, il n'y avait plus personne dans la salle quasiment. Et ce film, je l'ai détesté. Déjà, les deux comédiens principaux, c'est Eric et Ramsey. On aime ou on n'aime pas. Beaucoup de gens aiment la Tour Montparnasse Infernale. Moi, j'aime pas, mais j'aime beaucoup Double Zéro.
C'est génial.
Moi, j'aime beaucoup Double Zéro. Pour une raison qui m'est inconnue, j'aime beaucoup ce film-là. Peut-être parce qu'il y a Edouard Baird dedans. Bref, mais. Je n'aime pas l'univers de Quentin Dupieux là-bas. J'aime bien Robert, mais sans plus. Mais Quentin Dupieux, son univers avec Eric Ramsey, ça colle pas. autant qu'Éric Judor. Tu sens qu'Éric Dujour, ça peut être un vrai comédien.
Mais il revient souvent avec. C'est un des acteurs fétiches de Quentin Dupieux, Éric. Hein. D'ailleurs, il est dans Wrong aussi. Wrong, il dira à la British.
Mais tu sens que c'est un vrai comédien.
Ouais,
je trouve que Éric Dujour, et même dans sa série Canal Plus Platane, il était bon dans ce qu'il faisait. Et là, dans Aladdin,
dans
H, c'était lui. Mais je veux dire qu'on a souvent tendance à voir Éric Dujour comme son rôle dans H, justement. Ouais. Il le refait souvent. Dans ce texte, il le refait, mais Quentin Dupieux arrive à le faire à sa sauce. Mais celui que je ne peux pas blairer, mais du tout, c'est Ramzy. Ramzy n'est pas un bon comédien, il ne sera jamais un bon comédien. Selon moi, c'est l'écoute de cette émission. Bonjour Ramzy Media. Mais voilà quoi, quand ce film-là, j'ai l'impression qu'il demandait tout le temps à ce qu'on dise. Regardez à quel point je suis profond, regardez à quel point je suis intelligent, regardez à quel point c'est tellement bien mis en abîme la société contemporaine. Et ça m'a saoulé, ça m'a juste saoulé. Et puis ça m'a fait très mal aussi qu'un de mes humoristes préférés, qui est Jonathan Lambert, est un des rôles principaux. Et non, ce film est mauvais, je sais pas quoi en dire. Et les gens, quand j'en parle à des gens dans mon école, par exemple, ils disent: mais non, ce film est un chef-d'œuvre, il critique la société d'une manière phénoménale. Non, ça, pour moi, c'est un mauvais film. Alors, je sais bien qu'à tous les goûts sont dans la nature, mais non, la réelle est peut-être bonne, mais l'écriture et la mise en abîme de la société est tellement mauvaise et tellement ratée.
Mais c'est parce qu'en Belgique, on a tellement. On fait tellement des films où on critique la société qu'en général, dès que tu critiques la société, ça fait un bon film. Quoi. Les trois quarts des films d'Ardenne, c'est un peu ça. Quoi. Je veux dire, on a beau dire les films d'Ardenne, les d'Ardenne sont récompensés chaque année, machin et compagnie. Je veux dire, après, ça traite toujours des mêmes sujets, des problèmes qu'il y a en Belgique. Oh mon Dieu, Geoffrey, s'il vous plaît, coupez-lui son micro. Mais voilà, enfin, moi je pense que c'est là où tes collègues de classe te disent que c'est un bon film, c'est peut-être, ou même tes professeurs, c'est peut-être le syndrome belge où dès qu'on critique la société, ça fait un très bon film, ce que font les frères d'Ardenne en général.
Et toi, Mickaël, tu m'as dit hors antenne que ce film tu l'avais vu aussi, toi, il me semble.
Ouais, je pense pas que ce soit si simple que juste parce que ça critique, une certaine élite va aimer. Je pense pas que ce soit si simple. Quentin Dupieux, déjà, c'est un univers
très particulier.
Spécial, ouais, vraiment. Dans Wrong, il fait absolument tout ce qu'il ne faut pas faire au cinéma. Il y a des personnages qui meurent, aussi, puis qui reviennent plus tard. Mais c'est son truc. Voilà, il joue avec les codes et il y retourne. On adhère ou on adhère pas. Moi, j'ai beaucoup de mal. Mais quand j'ai vu Steak, j'ai pas particulièrement aimé. Mais ça m'a fait penser au collège Foufoufou.
Je connais pas.
Avec les bandes comme ça, américaines ou un peu japonaises. Mais pour moi, le gros problème du film, c'est que c'est un Quentin Dupieux. C'est le film qui a permis à Quentin Dupieux d'avoir des budgets pour plus tard, parce que c'est son premier aller mainstream, on va dire, qui est vraiment sorti dans beaucoup de salles.
Bah, Rubber, quand même, dans beaucoup de salles, non ?
C'est beaucoup plus inconnu, Rubber, hein. Je pense que.
Ah non, Rubber est beaucoup plus connu que Steak. Hein.
Même moi, je connaissais
pas dans le grand public. Hein.
Ah, si,
ouais,
c'est vrai. Rubber est beaucoup plus connu.
Alors, tant mieux. Mais pour moi, dans Steak, ce qui fait que le film a pu lancer Quentin Dupieux et aussi sa plus grosse faille, c'est Éric et Ramzy. Parce que je pense que les gens allaient voir pour voir du Éric et Ramzy et pas du Quentin Dupieux. Et donc, je pense qu'en prenant ces acteurs-là, il n'a pas visé le bon public. Mmh. Ou le public ne connaissant pas assez Quentin Dupieux s'attendait à autre chose.
Encore une fois, dans le film Steak, moi, ce que je reconnais, c'est que Éric Judor. Il y a des moments, il fait du Rick Ramsey de la Tour Montparnasse, de Double Zéro, il fait du Rick de base. Mais il y a des moments, j'en parlais avec un ami, c'est qu'il développe vraiment un jeu intéressant. Et maintenant, quand je l'ai déjà vu dans plusieurs rôles, où il a ce jeu intéressant, il a ce jeu profond, malheureusement, il a l'air faladin, et je ne pense pas du tout qu'il sera un rôle profond, mais il arrive à développer un jeu que Ramsey n'aura jamais. Et enfin voilà, moi, c'était ma plus grosse déception. Et encore, à l'époque, c'était 5€, tu vois, les places de cinéma à l'époque. Mais 5€ que j'ai très très mal dépensé, hein, personnellement. Et Geoffrey est en train de faire un... Oui, Geoffrey, on est en plein direct.
Il se prend pour le photographe, ouais. En fait. Hein,
on est en plein direct, là, Geoffrey. on est en direct, hein. Voilà, on est mercredi 17h, on est en direct, là.
Bien exactement.
Il fait mercredi 22h30,
c'est bizarre. Mercredi 22h30, on est en direct. Voilà. Et donc maintenant, moi, je vous propose. Ouais, oui, tu vas dire quelque chose, toi. Petite...
Ben,
oui,
j'ai pas vu. C'est juste parce que ça me revient juste à l'instant. J'ai écouté un podcast que tu connais aussi, qui est le Floodcast de Flaubert.
Qui a inspiré cette émission d'ailleurs.
Qui a inspiré cette émission et on la remercie. On fait un big up si tu nous entends, Flaubert.
Flaubert.
Merci. En fait, ils expliquaient apparemment que Quentin Dupieux, il faut voir sa filmographie. En fait, faut pas prendre un film. Enfin,
Faut pas juste prendre un film, faut voir toute la filmographie.
Mais j'ai vu que... Rupert avant Steak et ça m'a pas aidé à voir le film. Hein.
Ah, je sais pas, je connais pas.
Je pense que tout l'univers est lié en fait.
Ouais.
Il y a des liens entre ces différents films. Genre, il y a des liens entre Wong et Wong Cop.
J'ai pas vu celui-là. J'ai vu Rupert, Steak, Wong. Ouais. J'ai pas encore vu Réalité. Mais voilà.
C'est confirmé.
Voilà, donc on arrive tout doucement à la fin de cette 14e émission de Fish and Chips et on passe au moment que même les Hongrois nous réclament, la chronique de Mickaël.
Sors, ma sœur.
Pardon. Par toi. Lui, c'est mort. On lui a filé une fois un micro.
C'est fini, c'est plus fini. Jamais. Alors, la chronique de Mickaël Chantraine.
Non, on arrive à même couper dans l'annonce. De la c'est génial. Il y a du mieux. Hein. Je crois qu'on va oublier de me présenter.
Et la voilà, chronique de Laurent Fish and Chips.
On verra. Pas de spoil. Alors, cette semaine, je me suis beaucoup replongé dans YouTube. Donc, je sais que j'ai déjà fait une chronique avec des chaînes YouTube intéressantes et tout ça. Mais j'en regarde pas mal ces temps-ci. J'en regarde que je regardais il y a quelques années et que je me suis retapé. Titre. mais voilà, donc je fais une petite liste de ce que je me suis remis dans Karim Debbache. Ce mec est magnifique.
Ah oui, Krust. Ouais.
J'aime ce mec, Karim, si tu nous écoutes.
Génial.
Je t'aime. Il est génial. Donc sa rubrique s'appelle Krust. C'était une chronique qu'il faisait sur jeuxvideo.com. Donc il parle de cinéma. On voit que c'est un fan de cinéma, mais d'amour. Et c'est tous des films qui tournent autour du jeu vidéo.
Ouais, les films tirés de franchises de jeux vidéo.
C'est ça. Ouais. Ou qui parle du monde des jeux vidéo. Ouais, il a fait Wargame par exemple, ou des trucs comme ça. C'est vraiment génial, la mise en scène, l'humour, enfin c'est intelligent, c'est drôle, c'est subtil, c'est à voir absolument. Pour ceux qui aiment les séries, il y a la chaîne de Didi Chandudui.
Ouais, mon avis,
c'est un peu le syndrome du quand on se crée un personnage dans un jeu en pensant qu'on va jouer 15 jours et puis on joue 10 ans et on traîne un nom de boulet pendant 10 ans.
Bonjour, je m'appelle Béromas.
Lui, il fait une chronique qui s'appelle 5 théories sur... Oh, il y a 5 théories sur Mars et tout ça, mais il parle souvent des séries. Il y a 5 théories sur Game of Thrones, par exemple, Breaking Bad, Walking Dead. C'est intéressant. Donc il va voir sur Internet, hein, il cherche des théories faites par des fans, donc il n'y a rien d'officiel. Il y a des théories qui sont quand même bien velues et les gens ont trop de temps pour repenser. Je ne sais pas comment ils font pour partir aussi loin, mais quand on voit que dans Game of Thrones, il y en a qui te parlent de voyage dans le temps, de retour dans le passé, tout ça.
Surtout que pour faire un lien avec ta série préférée, Doctor Who, enfin une série préférée, il y a une théorie entre Doctor Who et Game of Thrones aussi. Un des généraux de Doctor Who qui se fait attaquer par les Weeping Angels. Qui se retrouve à l'époque de Game of Thrones. Surtout qu'il y a beaucoup de comédiens de Doctor Who qui sont dans Game of Thrones en plus.
Ouais.
Mm-hmm. Il y a
une théorie qui est intéressante aussi, c'est sur Harry Potter, où il y a une théorie qui dit que Ron est Dumbledore.
Ah oui, t'en as parlé une fois aussi. Enfin, c'est un truc où on a parlé en rentrée.
Ouais. Et donc Ron, étant Dumbledore, se serait trompé en retournant dans le passé, et donc il aurait eu du temps. Et en attendant que Harry naisse, il serait parti dans la Terre du Milieu, donc Dumbledore et Gandalf. Voilà, donc 5 théories c'est sur la chaîne de Didi Chandudui. Il y a les points culture de Links the Sun,
évidemment.
Qui sont géniaux, qui sont vraiment géniaux. Je vais pas trop m'étendre dessus, mais c'est vraiment intéressant, et voilà, c'est assez drôle.
Ouais, des cool.
Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, voilà, un truc à voir. Donc le mec, il fait des chroniques de films. Ça s'appelle Unknown Movies.
Ah, In the Panda.
In the Panda, c'est le nom de la chaîne, c'est In the Panda. Et le gars, en fait, il présente des films plutôt inconnus. Et il fait ça sous une série web. Donc c'est un tueur en série qui doit justifier le fait de parler des cinémas, mais il ne sait pas le faire sans tuer des gens. Enfin, et donc l'histoire évolue. Pour le moment, il y a 2 saisons.
Il a même réussi à parler d'un film porno, mais de manière très sérieuse.
Ouais.
Et il se balade avec une pelle et des traces.
Non, ça c'est le fossoyeur du film.
Non, mais In the Panda,
il joue le policier qui le poursuit.
Mais d'ailleurs, In the Panda va sortir un court métrage que je n'ai pas encore eu le temps de voir. Parce que je le suis sur Twitter, et il est très 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 actif sur Twitter. Et j'ai vu qu'il y a sorti un court métrage que je vais regarder un petit peu. Mais ces chroniques de Unknown Movies sont très intéressantes, surtout de Girlfriend Experience, que j'adore.
Oui, avec Sacha Grey.
Sacha Grey,
dans la chronique. Analyse quoi.
Et dans la chronique en elle-même, ton youtubeur préféré, et Pensée.
Et il y a Bruce, qui fait la première partie d'Alexandre Astier,
oui,
de conférence.
Faut aller la voir.
Il reste des places
pour le 1er octobre
à Lille.
On y retournera.
Ouais, mais par rapport à In the Panda, Je sais pas si t'avais vu, Tom, mais dans un de ses known movies, il parle d'un film qui est inconnu. C'est un gars qui était dans une école de cinéma. Le mec a pris 10 kilos, il fait ça genre comme Borat, genre documentaire. Et le mec s'investit énormément dans ce film-là. Il en a fait la chronique. Il a dit le film est introuvable, donc à part en téléchargement, et encore, faut vraiment tomber sur le site qu'il a. Il a fait toute la critique. Et le mec qui a fait le film a tellement bien aimé sa critique qu'il lui a envoyé le lien pour avoir le film. Et donc, il a rajouté sur sa vidéo. Il a dit ça dans sa FAQ pour parler de la saison 3 et tout ça. Et donc ce film-là, il y a moins de le voir, quoi. Et ça lève assez barge. Qu'est-ce que je regarde beaucoup pour le moment? Il y a toujours la chaîne de Durandal, on en a déjà parlé, mais il y a sa chronique de Pourquoi j'ai raison et vous avez tort.
Je ne supporte pas ce type.
Mais t'en as déjà parlé.
C'est vraiment intéressant. Je me suis refait quelques Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Il a beau être un peu abus de lui-même, et ça passe ou ça passe pas au niveau de son attitude.
Et surtout, le mec a envie d'être réalisateur. Ouais. Il critique tellement les trucs, mais vraiment, mais parfois méchamment et gratuitement certains trucs, que j'ai envie de dire que si un jour il fait un long métrage et qu'il est mauvais, il va s'en prendre plein la gueule.
Mais il l'explique dans ses FAQ aussi.
Oui, il est un peu dans. Et moi, il me fait un peu penser au réalisateur français qui a fait Vidocq. Comment il s'appelle encore ce type?
Pitoff.
Ouais, c'est Pitoff, ça. Qui a descendu Tarantino il y a pas longtemps, et Spielberg et j'en passe. Ouais. Enfin, c'est du facile. Quoi.
Mais Durandal, je veux pas forcément le défendre ou quoi, quoique un petit peu. Il est clair et net. Il a fait une FAQ sur Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Il veut prendre le truc à contre-pied et il donne des beaux arguments quand même, mais voilà, il sait que d'office il veut se mettre en porte-à-faux vis-à-vis des autres, quoi.
Mais moi, ce que je me dis,
c'est qu'il donner un avis différent.
Je pense que ce mec-là gagne l'antipathie d'un certain public. C'est pas comme
il en est conscient.
Ouais, voilà. Mais
il s'en fout.
S'il veut faire un film, c'est quand même mal barré pour lui.
Non, c'est clair. Mais en même temps, il a pas envie de passer du beurre non plus. Mais je pense que si la chronique s'appelle Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, c'est principalement à cause de ça. C'est vraiment pour y aller à fond, quoi.
Mais prenons par exemple le Fossoyeur. Il donne des avis sur des films parfois négatifs, parfois positifs, le Fossoyeur aussi, mais il a un capital sympathique que Durandal n'a absolument pas, parce que le Fossoyeur, le Fossoyeur arrive à avoir une légèreté que Durandal n'a pas.
Il a une pelle.
Et Durandal, à chaque fois, je ne peux pas prendre un de ses arguments au sérieux. Moi, c'est
ça. Il y a aussi le fait que le Fossoyeur s'est mis en scène, c'est un personnage, Durandal c'est lui.
Il fait un vlog,
pour moi, Durandal, il dit un peu tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Combien de fois on n'est pas sorti d'un film en disant putain, mais c'était vraiment de la merde, quoi. Alors que si on devait en parler à la radio tout ça, on modérait nos propos. Lui, il les modère pas. Ça passe ou ça passe pas. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il est pertinent dans ses propos.
Et pour prendre un contre-pied, Nostalgia Critique, qui dit quasiment tous les films dont il parle, c'est de la merde. C'est quand même un des seuls critiques du web qui a dit haut et fort Jurassic Park 2, Jurassic Park 1, c'est de la grosse merde. Et ces mecs, il dit Matrix 2 et 3, c'est de la grosse merde. Il le dit haut et fort.
Bah, tu vois, Durandal, il fait pareil. Il l'a dit aussi sur Matrix.
Nostalgia Critique ne satise en aucun point une antipathie du public. Nostalgia Critique, il est vénéré aux États-Unis alors qu'il démonte beaucoup de films. Il a dû démonter 300 films.
Je pense que c'est le ton, parce que Nostalgia Critique, il y a aussi une mise en scène dans ses vidéos et tout ça. C'est pas juste le mec face caméra, quoi. Que là, c'est le gars face caméra. Ouais, il y a son chat qui passe. Une fois il est coiffé, une fois il est pas coiffé. Enfin, je pense que c'est peut-être ce côté-là, c'est peut-être ce côté.
C'est possible. Ouais,
je suis dans ma chambre, je fais des vidéos et je vous emmerde tous.
Bon, en tout cas, je vais arrêter de t'interrompre parce que Durandal me casse les couilles.
Ok.
Moi, j'aime pas Durandal.
Sinon cinéma, j'ai commencé par ça, c'est tout. J'ai découvert deux trois bonnes chaînes aussi. Il y a Doc Seven. Il est pas là depuis longtemps. Il fait les sept tueurs en série les plus prolifiques. Alors maintenant, il a un format où il fait deux vidéos par semaine. Le dimanche, c'est un top 7 de quelque chose. Et non, le mercredi. Et le dimanche, c'est 7 minutes de faits insolites.
D'accord.
Et donc, c'est pendant 7 minutes, il dit plein de trucs, quoi.
C'est cool.
Voilà, les mouches ont trois testicules.
D'accord.
Ouais, voilà. Donc, c'est vraiment tout sujet. C'est assez intéressant. Il y a Micmac. Donc, la chaîne du gars, c'est Michael avec K, Launay, L-A-U-N-A-Y. Il explique les maths, pas forcément de façon très ludique, mais il est clair, il est très clair dans ses explications, il y a vraiment des trucs intéressants. C'est comme là que j'ai découvert que si on fait l'addition de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 jusqu'à l'infini, la réponse est moins 1/12. Et il explique pourquoi.
D'accord.
Pourquoi une addition de chiffres entiers positifs arrive à un résultat négatif. Voilà, donc c'est vraiment sur les maths. Et il y a Espace des sciences. En un mot, c'est, je pense que c'est dans une ville en France où ils font régulièrement des, ils invitent des gens pour faire des conférences sur différents thèmes. Et là, il y a de temps en temps des conférences d'Étienne Klein. Alors, je conseille à tout le monde de voir les vidéos d'Étienne Klein. Si vous avez aimé sur y penser la relativité restreinte et tout ça, Étienne Klein ne parle que de ça, de physique quantique, de, enfin, et c'est génial. C'est juste génial à écouter, quoi. Enfin. Okay. Je conseille les gens à aller vers la science et vers ces chaînes-là. Enfin voilà, c'est un peu les chaînes qui tournent pour le moment pour m'endormir.
Mais si je veux juste rajouter un truc, parce que je suis retombé dedans depuis un mois et demi, c'est les 3615
Usul. Ah, Usul,
ouais. Je suis retombé dedans en ce moment, j'adore ce moment.
Je suis désolé, mais ce mec est. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais ce mec est génial.
Il est très intelligent.
Il est très, très, très intelligent.
Ouais. Et moi, si je peux juste conclure sur les chaînes du web, il y en a une qui vient de commencer, mais qui est soutenue par tout ce qui est Ypensée, In The Panda, parce que c'est une proche de ce réseau-là. C'est Laurine Sassano, j'espère le prononcer bien, qui a lancé des chroniques sur les séries méconnues. Et sa première était The Worst. Et Laurine Sassano a capital sympathie formidable. Et tu sens qu'elle a dû observer beaucoup de personnes parce que ses vidéos sont très très propres, très très propres et très bien léchées. C'est une personne en plus que je suis sur Twitter depuis maintenant 4 ans, je pense. Et sa première chronique est à voir absolument parce qu'elle va essayer de vous faire découvrir des séries que vous ne connaissez pas. Et bref, moi j'encourage cette chaîne-là parce qu'elle est vraiment très très bien. Voilà. Et
moi, si je peux conclure aussi, alors.
Tu ne concluras pas, t'es en couple,
si,
s'il te plaît.
Non, si, à l'heure à laquelle on enregistre, hein, si vous voulez, en fait, dans exactement 1h22, c'est mon anniversaire. Donc si vous avez envie de me payer une place pour aller voir Alexandre Sy à Lille, je vous remercierai très
fort. En attendant, il y a Djokovic qui joue au tennis.
Je m'en fous.
Apparemment.
Voilà. Moi, j'ai pas eu cette chance d'aller voir Alexandre Astier et l'exoconférence. Et
moi, je compte bien y aller à Lille, la prochaine parce que je suis pas allé non plus. Là.
Mais c'est tout bientôt, c'est le 1er octobre.
Je crois. Moi, je suis allé avec Mickaël justement voir ça. Et maintenant qu'il y a Bruce, j'ai un peu envie de retourner quand même.
Puis il y a le spectacle qui a
allez, les gars, on fera ça hors antenne.
Il y a le spectacle qui évolue avec le temps. Là, on a été voir dans les toutes premières dates.
Moi, je crois que c'était la 4e, nous, je pense.
Ouais, c'est ça, c'est par là, ouais.
Mais voilà, en tout cas, c'est la fin de cette 4e émission de Fish and Chips, nouvelle formule. N'hésitez pas à dire sur les réseaux sociaux
si ça vous plaît.
Voilà, si ça vous plaît.
Oui, et n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas beaucoup de retours. Et
les commentaires, faut les retours, c'est cool.
Voilà.
On vous like, les gars.
Donc voilà, l'émission est amenée à changer, elle va encore évoluer. Sûrement qu'une 5e personne va se ramener d'ici peu de temps d'ailleurs. Je vois que Florent Bossard fait une tête très très bizarre.
On tease. Mais voilà,
les choses vont évoluer. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Si la chronique de Mickaël Chantraine vous barbe, n'hésitez pas à le dire, ça lui fera plaisir.
Oh, sa petite barbe. Très drôle.
Merci. Et voilà, donc c'est la fin de la 14e émission de
Merci
Fish and Chips. Et on vous laisse dans 1h30 seulement. Et on vous laisse sur cette chanson de Robbie Williams qui est Tripping. C'est une vieille chanson que j'aimais beaucoup à l'époque.
Il tombe souvent.
Il tombe. Oh, allez! Vous laisse. Bonne semaine à vous et à mercredi prochain. Salut, salut.
Salut.
First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. Being heartless again. I know it's coming. There's gonna be violence. I've taken as much as I'm willing to take. Why do you think we should suffer? Of birth, you know.
biggest word, cause I'm adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun. Oh no, it's coming, it's gonna be fun. Should suffer.